Bonjour, ici Roger Malina sur Creative Disturbance. Je suis ravi d'être avec Yuen Chardonnet et Fabrice Lapeltrie. Alors Yuen, peut-être tu peux te présenter rapidement.
Yuen Chardonnet, je suis auteur, journaliste, commissaire d'exposition, artiste un peu aussi. Et je travaille depuis un grand nombre d'années sur les relations entre art et culture spatiale. Dans ce contexte, j'ai travaillé beaucoup sur l'œuvre de Frank Malina, sa vie.
Fabrice.
Oui, bonjour, donc Fabrice Lapeltrie, je suis historien de l'art indépendant. J'interviens ici en tant qu'auteur d'une thèse de doctorat sur Frank Malina, donc artiste de l'art cinétique et ingénieur en astronautique.
Donc dans nos discussions précédentes, on a un peu parlé du paysage en Californie dans les années 30. Yuen, tu as parlé du travail de Lev Theremin et de Thomas Wolfrid. Et on a un peu discuté aussi comment l'artiste contemporain, d'abord, pouvait alimenter son travail par la recherche des psychologues et des sciences cognitives. Mais il y a aussi un autre aspect de cette mise en avant de l'artiste, de l'appropriation des sciences et technologies de son temps. Je vous ai donné l'anecdote que mon père, qui prenait des cours de peinture à l'huile à Paris, est rentré un soir en disant « J'en ai marre de peindre des poissons morts. Ce que je veux faire, c'est créer des œuvres d'art qui parlent des paysages que moi je connais à travers les sciences, dont l'astronautique, le spatial, le microscopique, bien sûr. » Il a fait un tableau qui s'appelle Brainwaves, qui est de l'appropriation de signaux cérébraux. Donc peut-être on peut un peu parler de ce contexte-là. Fabrice, tu veux commencer ?
Oui, alors, et cette idée en plus ne date pas forcément du moment où il a décidé d'être artiste en 1953, puisque dès qu'il intègre l'UNESCO en 1947, donc il part des États-Unis et il arrive à Paris. Il a ce poste de conseiller scientifique, mais il commence également une activité assez intense de dessin au fusain ou à l'huile, sur des petits formats en général, où on voit justement ces paysages scientifiques, on pourrait appeler ça comme ça, donc des reproductions de cellules ou des relations entre des signes mathématiques et puis la musique notamment. Et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement qu'en 1953, eh bien, il écrit dans le premier texte de sa carrière, dans le mini-catalogue, on va dire, de sa première exposition à la galerie Henri Tronche, il écrit justement qu'il en a marre de peindre les nus et les poissons. Et ce qu'il souhaite, c'est vraiment intégrer en tant que sujet déjà les sciences, mais aussi la technologie, qui est cette extension de la science, la technologie qui va être utilisée par l'artiste pour être intégrée dans ses œuvres. Et on peut prendre notamment cet exemple d'un effet moiré qu'il avait exposé dès 1954, où on a des lignes verticales qui, lorsqu'on bouge la tête, en fait, transforment ce réseau vertical et horizontal en une sphère, en fait. Et donc, il appelle ça, ça vient d'une transformation mathématique, on appelle une transformation conforme, qui est en fait la transformation d'une sphère à un plan. Ça, c'est intéressant de voir qu'il utilise à la fois cet effet moiré très utilisé en psychologie pour étudier justement l'effet du mouvement et l'illusion du mouvement dans le cerveau humain. Il l'utilise avec un sujet tiré des mathématiques et il l'intègre dans une œuvre artistique. Donc là, on est à la croisée de trois chemins. Tout à fait.
Yuen, tu veux un peu rebondir parce qu'en effet, ces idées sont... Il y avait de tout le monde, mouvement Bauhaus aussi, mais aussi en Californie, l'idée du cinéma expérimental, hein, donc une volonté de s'approprier les moyens de communication de son époque. On peut imaginer aujourd'hui, alors je te tends une perche, en effet, on voit aujourd'hui les artistes qui s'approprient les technologies spatiales. Peut-être que tu peux un peu parler de Autonomous Astronauts, mais aussi le travail. Pourquoi le spatial t'intéresse du côté artistique particulièrement ?
Bon, le spatial, très jeune, m'a intéressé du côté du point de vue artistique, parce que on dit autonomous, c'était une question de l'autonomie de l'artiste vis-à-vis d'un domaine qui était réservé aux agences ou aux programmes d'État, aux programmes académiques. Et de là où je venais, ça me semblait assez inaccessible. Et donc, il y avait une idée d'autonomie. Ensuite, j'ai été passionné par, des artistes que j'ai pu rencontrer sur mon parcours qui s'appropriaient les technologies spatiales pour des objectifs artistiques et donc de manière parfois indépendante. Effectivement, ça m'a amené. C'est un intérêt que j'ai eu parce que quand je dis que je me suis beaucoup intéressé par exemple à Lev Teremin, j'avais fait une exposition, monté une exposition avec le Centre Teremin de Moscou qui s'appelait Dessiner le son et qui était sur toutes les machines qu'avaient pu créer dans les années 30 des artistes ingénieurs russes, malgré le contexte stalinien de l'époque, des gens comme Evgeny Cholpo, ou des gens qui donc travaillaient à créer en fait les premiers synthétiseurs, mais de manière totalement manuelle, à dessiner des formes, donc des sinus noirs et blancs, et à les faire passer devant des lecteurs électro-optiques pour générer des modulations de fréquence. Et donc des machines très méticuleuses où ils passaient un temps incroyable à dessiner les planches ou à les découper dans des cartons pour les faire passer devant des lecteurs électro-optiques. Donc c'est vrai que j'ai tendance à mon intérêt pour Funkmalina se relie à ça, et comme à Thomas Wilfred, à l'artiste qui fabrique ses propres dispositifs techniques, qui les brevette parfois, comme Cholpo a breveté ce qu'il appelait variophone, le clavier luxe de Wilfred, et puis le Lumidine pour Frank Malina. Donc c'est vrai que, et d'autres encore de brevets, je sais que toi...
Chauffeur a breveté ses...
Ouais, et puis Frank, il y a eu plusieurs brevets, non ?
Oui, Frank Malina a breveté tous ses systèmes, sauf justement le système audio-cinétique qu'il avait tenté de développer, où le son devait créer les images. Mais il s'est un peu heurté à des difficultés technologiques, justement, assez importantes.
Là, en effet, je travaille avec un collègue à New York. On recense les brevets déposés par les artistes. Et c'est intéressant, en effet, que depuis toujours, art et technologie, ça a été une activité depuis tous les siècles. Qui a un peu disparu de l'horizon des arts contemporains pendant une certaine période, mais certainement dans l'art cinétique et l'art technologique des années 80 et maintenant avec les arts numériques, il y a vraiment l'idée que l'artiste peut détourner les moyens techniques à d'autres finalités que celle de l'origine, l'inventeur original, pour créer en effet des méthodes de son temps, pour s'exprimer, pour influencer la perception des autres. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, en effet, alors mon père, c'était l'appropriation de l'imagerie spatiale, mais maintenant, on est en contact avec des jeunes Mexicains qui sont en train de construire des satellites artistiques. Et donc là, c'est vraiment l'appropriation par l'artiste de la haute technologie de notre époque, pour des finalités purement artistiques et pas lucratives ou économiques. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir.
Oui, je ne connaissais pas cet exemple mexicain, mais ça me permet de rebondir sur un exemple qui est assez frappant. C'est dès la fin du 19e siècle, alors je n'ai plus le nom en tête de cette expérience qui avait été décrite mais jamais tentée, de disposer des miroirs géants dans l'espace, donc satellisés autour de la Terre, pour communiquer avec les Martiens. Parce qu'on imaginait que les Martiens communiquaient avec la lumière, en fait. Et en fait, ça permet de rebondir sur tout simplement cette vieille idée de l'harmonie des sphères, où on imaginait que les planètes, en fait, donc tournaient autour de la Terre, et qu'en tournant sur ce qu'on appelle les orbes, émettait un son qui était audible uniquement par les philosophes et que ce son révélait en fait l'ordre du cosmos. Hein. Étymologiquement, cosmos veut dire ordre, et que le philosophe pouvait interpréter cet ordre cosmique et le retranscrire pour l'être humain lambda, on va dire, et que la musique, basée sur des rapports mathématiques, donc sur un ordre cosmique également, était le moyen pour l'être humain de comprendre en fait l'ordre cosmique. Et donc on voit que cette musique des sphères et cette relation entre la musique elle-même, issue des cordes, et là on peut rapprocher encore une fois les premiers tableaux à cordes de Frank Malina qui étaient peints, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut imaginer que ces cordes tendues entre le châssis dans de nombreuses œuvres de Frank Malina qui étaient peintes, on pouvait imaginer la tension qu'il y a comme dans une corde de guitare, et il suffit simplement de la pincer pour entendre l'ordre cosmique. Quoi.
Alors je vais un peu détourner le propos. Parce qu'en effet, avec ton histoire là, des miroirs en orbite pour communiquer avec les Martiens, une des sources d'influence que tu as un peu approfondie en Californie, UN, c'est les relations entre les jeunes auteurs de science-fiction de l'époque et les personnes, Jack Parsons. Tu peux un peu parler des jeunes auteurs de science-fiction, parce que là, en effet, la création de l'imaginaire à travers les auteurs de science-fiction est très, très porteuse.
Oui, c'est vrai que, que Frank Malina et Jack Parsons avaient écrit un roman de science-fiction qui était un peu une extrapolation de leur vraie vie. Et Parsons s'était approché de la Los Angeles Science Fiction Society, dont faisaient partie des gens comme Robert Heinlein, Isaac Asimov, et plein de jeunes auteurs de science-fiction qui écrivaient des nouvelles dans la revue Outstanding. Et Parsons, parce que ces auteurs s'intéressaient aux scientifiques, aux ingénieurs qui travaillaient sur la question de la fusée, donc parce que ça leur permettait d'alimenter via leurs idées, leurs nouvelles de science-fiction. Donc évidemment, ils étaient très ravis de rencontrer des gens comme Parsons. Pour Parsons, c'était intéressant parce qu'il pouvait rencontrer, il a pu rencontrer Fritz Lang dans ces réunions, parce que Fritz Lang avait été conseillé sur un film qui s'appelait Une femme sur la lune dans les années 20, et qui ensuite avait émigré à Los Angeles en contexte allemand de l'époque compliqué. Des gens comme Woody Lay, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais il était aussi écrivait aussi dans Outstanding. Et progressivement, Parsons a rencontré un certain nombre de scientifiques, dont certains qui travaillaient au Manhattan Project, qu'il a fini par, à un moment donné, il avait une grande maison, il pouvait loger un certain nombre de scientifiques amis, dont des illustrateurs de science-fiction, et un scientifique de Manhattan Project qui s'appelait Robert Cornog, qui était aussi ami de Robert Heinlein, qu'il avait rencontré via Robert Heinlein, un écrivain de science-fiction. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles ils ont eu des problèmes après le projet Manhattan et après les premières fusées, c'est qu'il y avait une connaissance scientifique, cette proximité qu'il pouvait y avoir entre les écrivains de science-fiction et les chercheurs de pointe faisait qu'ils avaient tendance à délivrer de l'information qui pouvait se retrouver dans des revues de science-fiction, dans des scénarios hollywoodiens, ce qui ne plaisait pas du tout au gouvernement dans un contexte de guerre froide émergente où on disait là, ils vous êtes en train de donner de l'information. Et notamment, Robert Cornog a été sérieusement embêté pour ça, parce qu'il était proche de du syndicat des écrivains d'Hollywood. Robert Heinlein aussi a eu été suivi par le FBI à partir de 40 parce qu'il était proche de ces scientifiques de la recherche atomique.
Donc malheureusement, il va falloir terminer la discussion, mais je vais peut-être fermer la boucle là avec une autre anecdote. Après la mort de mon père en 82, un de ses amis, c'était Arthur Clarke. Et Arthur Clarke a publié un de ses romans. Et dans ce roman, il y a un pilote de station spatiale qui s'appelle Frank Malina. Donc, en effet, il y a une boucle complète.
Ray Bradbury aussi, qui était à la LA Science Fiction Society très jeune. Hein, il avait 18 ans et il a rencontré, il a été rencontré Frank Malina. Ouais. Et à la fin aussi, bien plus tard... Il lui a écrit, ils correspondent.
Une lettre, en effet, dans les archives où Ray Bradbury salue mon père et son rôle dans l'histoire de l'astronautique. Bon, ben écoutez, merci Fabrice, merci Yuen. À la prochaine.